technologies digitales et les arts de la scène, ou ce qu'il souhaiterait faire, s'il n'est pas encore impliqué dans les choses. Peut-être qu'on peut démarrer comme ça, et puis après on verra quels axes de discussion peuvent se dégager. Je vais commencer. Je commence par la droite.
Je m'appelle Clarisse Mardiou. J'ai rejoint le CECN donc avec Pascal il y a 4 mois à peu près. En fait, j'avais fait un doctorat sur les théâtres virtuels, donc en fait sur la manière dont les technologies changent la définition du théâtre aujourd'hui au CNRS. Et ensuite, j'ai été chercheur en résidence à la Fondation Daniel Langlois à Montréal pour travailler pour faire des recherches sur un festival qui s'appelle Nine Evenings, qui avait lieu en 66 à New York, avec une trentaine d'ingénieurs de chez Bell et 10 artistes, dont Rauschenberg, Cage, etc. Donc j'ai travaillé sur les archives de ce festival-là. Et ensuite, donc, j'ai rejoint le CECN pour continuer à développer des projets de recherche sur ces questions-là, également en lien avec la Fondation Daniel Langlois, puisque ils ont en fait mis en place tout un réseau de chercheurs internationaux pour essayer de répondre à cette question qui est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut documenter et archiver les œuvres qui sont en composante technologique. Puisque on a des œuvres numériques qui ont été achetées par des musées et qu'aujourd'hui on n'est plus forcément en mesure de les exposer, de les montrer au public. Voilà. Donc il y a comme ça plusieurs chercheurs qui se sont réunis pour essayer de réfléchir à ces questions-là. Et moi j'interviens donc sur le domaine des arts de la scène avec des études de cas, dont l'une est Michèle Noiret, qui est donc une chorégraphe qui est située à Bruxelles. Et où je fais une étude de cas sur 3 spectacles qu'elle a fait, qui s'appelaient Prospective, et qui donc essayaient d'explorer les technologies dans le domaine de la chorégraphie. Voilà. Ensuite, on a un autre projet au CECN qui est lié plutôt aux résidences d'artistes, puisqu'on accueille de nombreux artistes en résidence, pareil sur ces questions-là. Donc plutôt sur les arts de la scène et les technologies, parfois un peu sur les installations et sur également certaines œuvres sonores. Et on se retrouve en fait confronté à un problème qui est que d'une part beaucoup de jeunes artistes ont tendance à un peu réinventer la roue, ou ont recommencé à faire des recherches qui ont déjà été menées par d'autres artistes. Et donc on est en train de réfléchir à la manière dont on peut créer on va dire un centre de ressources ou plutôt en fait comment est-ce qu'on peut structurer les connaissances qui sont issues de ces résidences d'artistes pour que les autres puissent ensuite en bénéficier et que les différents artistes qui sont impliqués dans ce domaine-là puissent échanger leurs connaissances. Voilà, donc c'est un deuxième projet de recherche. Je vous présente un peu les différentes choses, puis peut-être qu'on reviendra dessus par la suite. Et donc les résidences d'artistes sont aussi couplées avec les formations, puisqu'en général, par exemple, lorsqu'on accueille des artistes sur un projet, on va par exemple leur proposer des formations sur Maxime SP, sur la projection d'images, sur la scène, voilà, différentes choses. Après, je ne sais pas, tu présenteras peut-être plutôt les activités du CECM. Enfin, voilà. Et donc, moi, je m'occupe... donc de ces formations, de recruter les nouveaux formateurs, de voir comment on peut les organiser, de mettre en place de nouveaux partenariats, puisque là on commence à mettre en place notamment un partenariat avec l'INA, qu'on est de plus en plus approché par la formation initiale. Au début on s'adressait plutôt à la formation continue, donc aux professionnels. Et là, donc on a 2 étudiants du DESS Mise en scène et dramaturgie de Nanterre qui ont fait un atelier au CECN. L'école de la Cambre à Bruxelles nous a également approché, on va monter un partenariat avec eux. Et la dernière chose, c'est que je viens d'être nommée à Valenciennes à un poste de maître de conférence pour un master professionnalisant en scénographie interactive, et où donc je vais aussi développer ce type de formation, mais plutôt pour la formation initiale.
CECN, ça veut dire quoi?
Centre des écritures contemporaines numériques.
Peut-être dire ton nom et puis ton type d'intérêt ou ton type d'expérience.
Donc, je suis Régis Orson. J'ai été formé à l'ENSAT, notamment par François Hébert, qui m'a enseigné Max Alaspé. Suite à la sortie de l'école, j'ai intégré une compagnie qui s'appelle la compagnie Incident Mémorable, qui travaille beaucoup avec des nouveaux outils numériques, que ce soit en son ou en vidéo. Et donc j'ai la possibilité de faire leur régie son avec Max NSP et avec d'autres compagnies aussi. Et à chaque fois, j'essaie de travailler avec des outils numériques et qui permettent de faire de l'interaction. En ce moment, on est à la recherche de nouveaux outils, de choses fiables, qui fonctionnent bien, qu'on n'a pas besoin de débugger sans arrêt. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus. Quoi. Donc, voilà.
Tu peux rappeler ton nom,
parce Olivier.
Olivier. Et ton nom de famille, c'est
Pfeiffer. PFEI2FR. Et donc, voilà, on est surtout à la recherche de choses fiables, de trouver un espèce de protocole entre le créateur, programmeur et le régisseur. Parce que pour l'instant, les personnes qui font la programmation en Max, chacun programme à sa petite sauce. Et du coup, le régisseur, quand il est intégré dans un projet avec un programmeur, il est complètement paumé parce qu'il ne sait absolument pas. Il faut qu'il rentre dans la manière de programmer du créateur et c'est super compliqué, quoi. Et du coup, on essaye de rendre cette relation plus posée et plus viable, quoi.
Quand tu dis on essaye, est-ce que vous êtes intéressé de trouver des modules, peut-être interfaces, ou vous souhaitez les développer vous-même Vous êtes en questionnement peut-être.
On est en questionnement et on essaye surtout de trouver des espèces de protocoles communs que les différentes personnes qui seraient amenées à travailler ensemble utilisent pour qu'à chaque fois on ne soit pas obligé de redécouvrir la programmation des uns et des autres. Quoi.
On, à travers la compagnie Incident Mémorable, a déjà une communauté, c'est Georges Gabriolet qui il y a déjà une communauté de connaissances et de personnes qui ont traversé la compagnie à un moment ou à un autre, qui ont continué à travailler ensemble, qui ont déjà produit des choses, donc toi qui as produit Peravino par exemple, et notre logiciel qui s'appelle Mirage, qui s'est fait de façon communautaire. Et aussi, il y a un groupe de travail qui a été mené à l'initiative de Georges à l'intérieur des groupes de travail AFIM, et qui travaille, qui travaille sur une modélisation de ce qui pourrait être un outil numérique modulaire permettant de travailler en spectacle.
Mais c'est la suite de Mirage, cet outil-là? C'est
une autre réflexion.
D'accord.
Voilà. Qui ne concerne pas que la vidéo. Qui concernerait la régie en général. En partant de la régie.
Ouais. À la base, c'est un projet son, mais qu'on essaierait d'ouvrir au maximum vers les autres
médias. Il porte un nom, pas encore. C'est un prototype, quoi. C'est un concept.
Pour l'instant, c'est rien.
C'est un concept.
Voilà, je m'appelle Stéphane Maurice, je suis musicien au départ, et puis je suis venu à la régie un peu par la nécessité de mettre en œuvre des créations que j'avais faites pour des compagnies dans le théâtre.
Tu es basé où ici?
Oui, je suis à la région. Oui. Donc je travaille régulièrement, notamment sur la Chartreuse et puis avec quelques compagnies. Là, tout de suite, ma problématique, ça va être de rejoindre mon lieu de travail d'ici 16 heures, parce que je travaille sur le spectacle de Vissement à la Chartreuse et qu'il va falloir que j'y aille. Je suis venu un petit peu pour voir ce dont il était question, pas des questions qui étaient un peu mises en jeu. Je suis en relation un peu avec Jean-Louis sur ces réflexions qui rejoignent ce que disait Olivier, sur l'idée de se trouver un peu des outils communs, je veux dire, une sorte de langage commun un peu dans la. dans les moyens mis en œuvre pour ne pas repartir à zéro à chaque fois. Donc, moi, j'utilise Max éventuellement en tant qu'utilisateur, pas du tout en tant que programmateur. Donc, effectivement, je vois la difficulté qu'il y a là-dessus d'essayer de comprendre à chaque fois un petit peu ce qui est en jeu, parce que j'aime bien comprendre ce qui se passe tout en n'étant pas programmateur sur ces questions. Je suis surtout utilisateur. Okay. Et je suis désolé, je ne vois rien.
Mais peut-être on pourra donner un enregistrement sonore. De...
Ça peut être un enregistrement.
Je suis là. Ok, on passe à vous.
Aurélien Marin, je suis depuis 2 ans l'assistante de Jean Mandorville.
Aurélien, c'est ça ?
Marin.
Marin, oui.
Qui travaille sur ces questions depuis plusieurs années et qui collabore avec des universités, des entreprises, des chercheurs pour effectivement développer des outils. Alors, qui en premier lieu sont impliqués sur des projets précis, mais qui rentrent dans une problématique plus large, effectivement, de recherche et de développement d'outils numériques pour l'application. Et de voir comment, quelles utilités ils peuvent avoir, comment on interroge les nouveaux outils qui apparaissent, et comment on forme des personnes à ça, comment on peut accepter par un public, etc. Le volet archive est également un volet qui est intéressant puisque au niveau de captation, il y a peut-être des choses à faire grâce au support numérique. Voilà en quelques mots l'intérêt de la même volet à l'instant.
Ok, merci.
Bonjour, Christine Chandeuf. Alors moi je dirige une compagnie qui s'appelle Compagnie Filles de l'air, qui est une compagnie classique, c'est-à-dire dans le sens où n'utilise pour l'instant pratiquement pas de numérique. On travaille de plus en plus sur des œuvres littéraires. Ça veut dire qu'une nouvelle structure théâtrale, et je suis très intéressée sur. Voilà, je cherche les outils, notamment sur le traitement du son. Donc j'ai envie de trouver un oui en venant ici faire une formation autour du son. Parce qu'à partir du moment où on a une œuvre littéraire, on fait comme une sorte de décor sonore. Voilà. L'idée, c'est petit à petit de faire porter au son une bonne partie de l'univers. Voilà, donc c'est assez compliqué, je trouve, quand on est du côté artistique, entre guillemets, de trouver des stages, des endroits de formation, puisque sur le dernier spectacle, c'est moi qui ai fait ma bande son, de façon assez simple, enfin, sur des outils comme Pro Tools, des choses. Voilà, je connais un peu Max, mais j'y vais pas là-dedans. Chacun son métier. Et ce que je veux dire, parce que c'est compliqué de trouver des endroits, c'est pour ça que la rencontre m'intéressait, c'est compliqué de trouver des endroits où on ne soit pas purement technique, un peu paumé, Enfin, voilà, moi je me dis c'est mon objet qui va m'amener vers le numérique, c'est pas le numérique qui va me faire définir mon spectacle. Donc, voilà.
Donc, ok.
C'est un peu ce titre que
je m'appelle Armand Tartari. Je suis plutôt technicien linéaire, mais je travaille sur un projet qui s'appelle Suivez l'accent avec André Mainvielle, où on collecte du son à travers la France en même temps qu'on fait des concerts. Donc je travaille avec des outils comme Pro Tools. Bon, la question du numérique en lumière pour moi n'est pas du tout mise en jeu, mis à part un peu pour la vidéo projection. Je me pose beaucoup la question de comment on travaille sur l'interaction entre le numérique et l'analogique, c'est-à-dire comment on continue à garder aussi, à ne pas perdre les outils qui étaient antécédents numériques, c'est de même pour l'image. Je regrette toujours un petit peu la perte des anciennes formes, c'est-à-dire que pourquoi faire disparaître d'anciennes formes qu'on n'a pas exploitées jusqu'au bout.
Je suis Philippe Pompémont, je suis régisseur de théâtre. J'ai travaillé surtout avec un metteur en scène avec lequel on a travaillé ensemble justement à l'élaboration d'un certain nombre d'outils, moi du côté technique en faisant des propositions, des prospectives, de l'exploration, et lui en rebondissant, voire en me demandant de savoir si on pouvait réaliser quelque chose. En fait, on a formé pendant une douzaine d'années une espèce de binôme de veille et artistique de son côté et technologique du mien, où on a petit à petit conçu des projets. C'est-à-dire qu'à l'époque du Macintosh Classic 2, on a pu utiliser des capteurs piezo, du MIDI HF, toutes sortes de choses comme ça, qui font rigoler doucement aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient quand même un morceau de projet. Donc on est parti un peu sur ces dynamiques-là. Moi je me suis toujours intéressé par l'informatique dans le spectacle vivant, dans le sens où je me disais qu'il y avait possibilité de modéliser des pratiques professionnelles. Et donc je me suis lancé ensuite sur ce gros projet qui est le projet Light Regi, qui est donc un jeu d'ordre, lire, de lumière, modélisé, mais en partant de l'expérience, je rebondis immédiatement, des régisseurs de lumière auxquels se sont adjoints depuis tout un nombre important de modules qui répondent à des demandes ponctuelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de grosse centrale de gestion du continuum du spectacle et là, au-delà, la possibilité de, à la demande, fabriquer un tout petit bout de logiciel. Donc ça, c'était le projet qui, lui, a démarré maintenant, il y a presque 9 ans. Donc maintenant, il est parfaitement en route, il fonctionne. Je l'ai utilisé tout à l'heure, à 12h30. Voilà. Une chose qui me semble aussi très importante, c'est, on parlait de réinventer la roue, voilà. C'est qu'effectivement, on s'aperçoit que les strates de savoir s'accumulent vite. Et donc, il est utile aussi de pouvoir informer, transmettre. Pour faire des formations initiales, entre guillemets, sur Max MSP, annonce, parfois aussi à l'heure. Voilà.
Merci.
Bon, ben, moi c'est Jean-Louis Larsepeau, je travaille ici pendant l'année. Je suis donc responsable de formation de l'ESPS, responsable du secteur son et des secteurs associés, la vidéo et toutes les choses numériques. Voilà, donc à l'ISTS, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années qu'on travaille sur les interactions, en formation sur les interactions, Max et MSP Twitter, Max, donc d'abord dans des formations de numérique, et maintenant dans des formations qui est dédiée en fait à Max et MSP Twitter, qui était la première qui au moins s'orientait vers le spectacle vivant, au moment où donc, je suis très content qu'il y en ait d'autres qui se montrent maintenant, il y a un besoin énorme, il me semble. L'orientation générale de l'ISTS, c'est aussi de travailler en atelier de création, c'est aussi ce que vous comptez faire. Et voilà, si j'ai rencontré Christine dans une formation, une formation qui s'appelle la régisseur de spectacle, c'est parce que en fait, dans nos formations, on aime beaucoup avoir des référencettes, des artistes qui nous sont, et pas seulement des techniciens. Ça me semble important. Est-ce qu'on avait un projet cette année qui n'a pas pu se faire, qui en fait voulait surtout parler à une grande frange du public artistique qui actuellement peut-être ne se sent pas concerné par toutes ces choses-là, qui est le public de base, je pense, des metteurs en scène et des artistes, pour avoir leur réaction un peu plus eux aussi, pour une majorité des personnes dans ces milieux-là s'approprient des outils simples et le transforment en outils théâtraux et réinventent effectivement des langages, ce qui, pour l'instant, est le fait de certains metteurs en scène très engagés et qui sont venus à ces techniques-là en y cherchant quelque chose qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, en étant déjà au courant de ce que ça pouvait apporter. Donc je pense qu'il y a actuellement énormément de gens qui regardent ça de loin, qui n'osent pas s'y engager, qui pourraient aussi trouver leur voie là-dedans, compte tenu de l'évolution des moyens et du fait que la plupart, beaucoup de choses sont très accessibles.
Bonjour, je m'appelle Pascal Beltada, je suis compositeur, je vais dire compositeur intermédiaire, mais c'est peut-être un peu le bon temps, en vrai je travaille avec le son, voilà, et beaucoup en rapport avec le spectacle vivant, parce que pour moi l'activité est propre, et puis je suis assez engagé dans un groupe de travail qu'on a monté cette année. Aussi un certain nombre de gens, d'autres personnes, comme François Weber, Vincent. Il y a Georges Gagnoré qui met en scène un compositeur qui leur mémorable. Il y a Tom Knight qui est compositeur. Il y a Michel Blois qui travaille avec nous, la Grande Fabrique. Et donc, on a un peu posé la réflexion autour des outils et des pratiques de l'audio, du son, du sonore, en général, dans le spectacle vivant. Alors, je vous invite à aller voir sur le site web de l'espace de la forme collaborative didascalie.net et vous verrez sur les news, il y a en première ligne, il y a le lien vers la page publique du groupe de travail. Donc vous verrez un petit peu toute une analyse qu'on a fait, un petit peu des pratiques entre les régisseurs ou régisseurs son ou bien réalisateurs sonores pour le théâtre et les compositeurs qui travaillent pour le spectacle vivant. Donc évidemment autour, je l'ai perdu parce que c'est un peu ici, mais autour d'objets qui ont été développés avec Maxime SP, qui donc sont un petit peu des objets de composition interactive et d'accès gestuel, des choses comme ça. Donc on a un petit peu regardé quelles étaient les pratiques, quelles étaient un petit peu les a priori qui menaient à la construction de ces outils. Et puis on a essayé de voir, puisqu'on avait chacun développé des environnements un petit peu génériques, Olivier en a fait un, j'en ai fait un, Tom Maïs en a fait un, Mathieu Chamaille en a fait un, ensuite, on a essayé de voir hein, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en commun de ça, comment on pouvait essayer de penser à essayer de faire un outil à la fois ouvert et à la fois un petit peu générique. Donc, en plus dans une optique de prospective que de vraimentalisation, parce que donc, ce groupe de travail que j'ai fait est financé et commande de l'AFIM, qui est l'Association française d'informatique musicale. Donc en gros, le temps c'est un an, on a commencé en avril, on est censé finir ça en mai-juin pour le compte rendu. Et donc on essaie de voir en fait un peu plus loin et de voir si on ne peut pas lancer un développement à plus long terme sur des projets de plus grande échelle, d'outils pour l'audio, éventuellement pour la vidéo et la lumière, aussi enfin, un peu intégrer ça. Donc particulier autour de en gros, la dichotomie, l'interface, le moteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc je pense que le mieux, si je peux rentrer chez vous, c'est d'y voir sur le site. Non, dis la série au 5 minutes. Et il y a le point net.
C'est sûrement si on veut faire des choses, par exemple, des projecteurs, des ordinateurs, éventuellement, sans perturber tout le monde, on peut avoir des choses.
Ok. Ok, bah, moi c'est Denis Moreau. Je suis étudiant au sein du DESS de mise en scène dramaturgie à Paris 10 Nanterre. Donc, c'est une formation en fait, pratique à la mise en scène, déjà un peu metteur en scène. Donc on a pas mal travaillé avec différents metteurs en scène en stage essentiellement. Et dans le cadre du DESS, on a reçu une formation aux aux arts numériques. Donc d'abord une formation un peu théorique avec Clarisse Bourradio, et puis une deuxième formation au CECN, dirigée par Pascal Kaiser, à Clermont. Donc forcément, en cadre de nos mises en scène, c'est forcément intéressé à comment concrétiser certaines idées, et donc il y a un intérêt certain à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les arts numériques. Puis également, dans notre promotion, nous avons créé un collectif de metteurs en scène qui s'appelle ADN 118, et dont un certain nombre d'entre nous sont effectivement intéressés à ces questions d'art numérique et de mélange entre l'art vivant entre l'art vivant et puis l'art technologique.
Mais moi, je m'appelle Nicolas Lozard, je sors de la même formation. Je pense que l'économie, je dirais que c'est plutôt l'objet qui m'amène à m'interroger sur les techniques contemporaines, numériques, etc. Mais que ce questionnement devient presque systématique à chaque fois, puisque ça participe de l'univers commun, et même si on met l'individu au milieu de son projet, ça fait partie maintenant de nos habitudes. Donc c'est un intérêt nouveau et très frais, puisque je ne maîtrise absolument pas Max NSP, je sais me servir de tout. Enfin, il y a quelque chose aussi. Sans forge. Bah, le truc de machin. Et il semble que ensuite, si on se place en tant que metteur en scène, il faut qu'on ait au moins des moyens de dialoguer avec nos collaborateurs. Au terme d'une semaine de formation et découverte au CECN, on peut quand même choper comme ça quelques mots de vocabulaire, quelques petites choses qui permettent de faire avancer un petit peu la collaboration. Que le sourire du collaborateur numérique soit plus le même. C'est ce que j'ai remarqué.
Et vous allez présenter un festival?
Donc oui, du 20 au 30 septembre pour en être.
C'est mon droit. C'est l'avion.
Des gens qui arrivaient dans cette formation, c'est-à-dire plus sur des formes de théâtre classique, on va dire, avec l'importance donnée au texte, au signe, au jeu du quotidien, etc., mais pas du tout sur ces questions, ne serait-ce que de projection d'image. Voilà, donc il y a un cheminement qui a été fait. Il faut essayer de garder aussi dans les années suivantes pour ceux qui font une nouvelle promotion qui vont.
C'est beaucoup d'archives et puis 10% de formation. Donc, je recherche, parce qu'il y a une collaboration entre l'image et le CSS. qui doit se faire, donc une partie de formation qui doit se passer à l'image, une partie de Créteil à côté. Moi-même, je suis formateur en modèle numérique, donc je représente l'INA dans cette affaire. Donc à l'INA, il y a aussi le groupe de recherche musicale qui est d'antériorité sur cette affaire assez louche. J'ai moi-même participé à cette affaire assez louche dans la meilleure carrière. Donc, il y avait pas mal de raisonnements sur ce qui a été dit. Ça me rappelle des souvenirs assez... Ça résonne.
Ok. Peut-être, si vous êtes arrivé, on fait un tour de table pour que chacun se présente. Son petit intérêt par rapport aux technologies numériques, ou s'il a une expérience, le type d'expérience qu'il a.
Voilà. Non, il est curieux, ce moment.
Voilà, curieux, c'est déjà très bien.
Jean-Pierre Pascal.
Pardon ?
Je suis Jean-Pierre Pascal, okay. Je suis fraîchement directeur technique sorti de la formation du CPTS.
Oui.
À la limite, Philippe Montémont, à Roche, et à l'issue depuis longtemps, on travaille avec lui.
Oui.
Voilà.
Okay. Bienvenue.
Merci.
Alors, je vais vous présenter moi. Vouloir faire un tour de table. Donc, j'essaie de ne pas être très long, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, pour faire simple, en fait, je travaille en trois structures. Donc, une structure franco-belge qui s'appelle le Management Snowbelge. Alors, c'est une structure binationale, donc avec une programmation commune, en fait. Nous sommes deux villes qui sont distantes d'une vingtaine de kilomètres, donc Maubeuge en France et Lens en Belgique. Et donc il y a un programme commun entre les deux villes, il y a des bus qui emmènent les spectateurs d'une ville à l'autre quand les spectacles se passent de l'autre côté de la frontière, les festivals de côté de la frontière aussi. Donc, alors du côté français, Maubeuge c'est une scène nationale. Du côté belge, la Neige-Amont, c'est une structure un peu plus grosse, en ce sens qu'il y a un des quatre centres dramatiques de la communauté wallonne bruxelles. Il y a l'ensemble Musique Nouvelle, qui est l'ensemble de musique contemporaine de Belgique francophone, qui est dirigé par Jean-Paul Boussy. Donc c'est un orchestre de 20 musiciens contemporains qui fait beaucoup de croisements entre musique contemporaine et musique électronique. Il y a une structure qui s'appelle une Maison Folie, donc qui est issue un peu de l'île 2004, qui travaille sur les milieux associatifs, sur les jeunes, les personnes âgées, en fait le type de public qui ne vient pas dans un centre dramatique ou dans un lieu de diffusion on va dire, classique. Donc c'est un espace de travail, de résidence, de présentation pour ce type de public-là, mais qui peut aussi accueillir des artistes en résidence. Et puis il y a le CECN. Alors le CECN est issu un peu de l'expérience essentiellement Didier Fusillé, qui dirige la scène nationale de Maubeuge et la maison des arts locataires, avait développé depuis 6 ou 7 ans. Donc il a créé depuis 6 ou 7 ans des studios technologiques à Maubeuge et à Créteil, qui sont des studios d'appui pour les artistes qui souhaitaient intégrer de la vidéo, du son ou d'autres technologies numériques dans leur travail. Et donc on s'est rencontrés il y a à peu près 3 ans avec Didier. Où cette structure à Mons était en train de se mettre en place, justement, c'est-à-dire la fusion entre un centre dramatique, musique nouvelle, les infolies qui se mettaient en place. Et là, la problématique, c'était d'aller plus loin que simplement le travail qui avait été fait à Créteil et à Maubeuge, c'est-à-dire d'encadrer des artistes en leur donnant un vidéaste en appui ou un créateur sonore en appui du matériel technologique. C'était de se dire, ben, on a fait ça pendant, là c'était 4 ou 5 ans, et puis en fait, bon, on a des tas d'artistes qui sont venus, puis sont repartis, et puis on n'a pas vraiment eu de structuration en fait, des connaissances, d'échange en fait, des expériences. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller faire autre chose? Et cette autre chose, c'était de créer un centre de formation continue, parce qu'on voulait toucher l'ensemble des publics, donc c'était pas partir dans une logique de formation de 1 an, 2 ans, 3 ans, on voulait vraiment toucher tout le spectre en fait, des créateurs. Et donc on a démarré il y a un peu plus de 2 ans des ateliers d'une semaine qui sont des ateliers ouverts justement à des gens qui n'ont pas le temps de s'inscrire dans un cursus de 2 mois, 3 mois ou 6 mois, parce qu'ils ont leur activité propre de production, de création, et qui sont des ateliers de type collaboratif. C'est-à-dire où on essaie justement de, d'à la fois faire un état de la technique sur le champ considéré, mais aussi dans un laps de temps relativement court, alors il y a 2-3 minutes un peu plus long, mais sur les ateliers, de pouvoir présenter à des personnes qui ont un profil artistique ou des personnes qui ont un profil plus technique, quel est un état de la technique dans un champ considéré, et de les faire travailler sur des prototypes, sur des petits projets d'études de cas, très rapidement, donc des travaux pratiques. Qui peuvent se faire sur plateau, donc on peut aller sur plateau, tester des projections, donc la diffusion sonore, la spatialisation du son, etc. Et donc ça c'est un premier type d'action qu'on a, ce sont des ateliers, c'est ce qui est proposé à l'INA, en fait, proposé prochainement à l'INA, donc on fait vraiment un copier-coller. Donc là on travaille avec des personnes, par exemple le stage dont la personne m'a entendu parler, c'est un stage avec Yves Labelle, qui est le directeur technique de Denis Marlot, donc qui a fait la trilogie, la technologie de Denis Marlot, qui est vraiment un très grand spécialiste de l'utilisation des vidéos. On a d'autres stages où on travaille avec des gens qui travaillent avec Robert Lepage, par exemple, qui travaillent avec Marie Brassens sur le traitement de la voix, la manière de changer la voix, ce qu'on appelle le pitch d'un comédien, pour faire parler un comédien avec une voix d'enfant, une voix de personne âgée, etc. Et travailler aussi sur la spatialisation du son. On a des ateliers avec Philippe, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc pour chaque champ, on est en préparation dans le domaine de la marionnette, de l'animation, de robots, etc. Donc dans chaque champ, on fait venir des personnes qui ont une compétence, qui sont prêtes aussi à la partager, parce qu'on travaille vraiment en système ouvert, c'est-à-dire que, un peu comme on parlait sur cette expérience plus axée sur la régie, on essaie vraiment de faire un peu un inventaire, d'échanger des informations et de ne pas travailler en vase clos, parce que c'est un peu ce qui s'est passé peut-être pendant quelques années, mais là on a une autre vision des choses, une vision d'échange, une vision d'ouverture. Alors à côté de ces ateliers, pour terminer, donc on a des résidences, donc là ce sont des résidences de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a des artistes, on peut mettre à disposition des artistes toute une série d'équipements, éventuellement du support en production, par exemple, on travaille sur les productions de l'image de synthèse, des choses comme ça, où il faut beaucoup de petites mains, comme on dit, pour créer des images. Donc on peut accompagner des productions avec ce genre de propositions. On peut mettre certains types d'équipements assez pointus à disposition en liaison avec des entreprises. On travaille assez souvent avec des entreprises. Et alors on a un troisième volet, pour terminer, qui est un volet vraiment de sensibilisation. On essaye d'avoir toute une série d'actions pour sensibiliser pas seulement les professionnels mais aussi le grand public à l'utilisation des nouvelles technologies dans le champ culturel et plus spécifiquement dans les arts de la scène. Et donc là, on publie un magazine, d'ailleurs j'en ai quelques-uns, qui est un magazine semestriel où on fait toute une série d'interviews de personnalités qui utilisent les technologies numériques, pourquoi, comment, etc. C'est pas un vocabulaire élitiste, c'est un vocabulaire qui se veut vraiment grand public. Et donc on présente évidemment nos formations, mais à la fin, parce que c'est l'objectif, c'est surtout d'avoir une ligne éditoriale et une ligne pédagogique par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. Et puis on coproduit aussi des spectacles, puisqu'évidemment, il y a, comme je vous dis, un conseil national, un centre actif, un musée de la donc on a certains spectacles sur lesquels on fait des productions avec une grosse part de production qui sont mises avec un apport technologique. Alors on travaille aussi avec des compagnies émergentes, où on fait des apports beaucoup plus légers, des apports plutôt technologiques. Et donc là, sur les 2 dernières années, on a accueilli une bonne vingtaine de compagnies en résidence. C'est quand même un chiffre assez élevé. Avec le problème que Clarisse mentionnait, c'est que souvent, on retrouve des compagnies qui veulent faire un peu ce que d'autres ont fait un an avant, et une grande difficulté de transmettre en fait les connaissances et les informations, d'où l'idée de travailler sur. Et alors on a aussi une activité dans le domaine de la recherche. Donc Clarisse en a parlé tout à l'heure. Donc, là on travaille sur des projets de recherche internationaux sur justement la manière dont on peut garder trace de spectacles, éventuellement pour reproduire des spectacles qui intègrent de la technologie. À la, ça peut être à la fois des vieilles technologies non digitales, de 35 mm ou des choses comme ça, et encore plus dans l'électronique ou numérique, où il y a une trajectoire plus importante. Mais Clarisse en a parlé tout à l'heure, donc là on est dans une démarche qui est justement comment reconstituer un spectacle du début des années 80, où il y avait des vidéoprojecteurs, on n'a plus les mêmes vidéoprojecteurs, on n'a plus les mêmes contrastes de lumière, on n'a plus les mêmes machines, comment on fait, comment établir les protocoles pour essayer de sauvegarder le mieux qu'on peut ces œuvres qui sont extrêmement sensibles, beaucoup plus que dans les époques antérieures, mais je veux dire, c'est années 50, 60, on est vraiment dans une forme de fragilité. Donc voilà, c'est un peu ce que je... Alors je ne sais pas si on peut peut-être décider de quelques axes de discussion ensemble qui peuvent intéresser une majorité plutôt que de partir dans la discussion. C'est un peu compliqué. Ou peut-être, est-ce que certains souhaitent peut-être qu'on voit certains sites web avant d'entrer dans une commission, par exemple, on a parlé de...
Enfin, on peut le regarder, il n'y a pas de souci. Après, c'est beaucoup du texte et c'est assez long.
Peut-être pas très...
Donc, peut-être passer à travers et puis je vous fais un petit résumé de chaque partie ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on va faire là ? Il faut un ordinateur. On entre. Création de production qu'on ne va pas pouvoir reproduire, on ne peut pas remontrer, comment ça se fait pour faire. Alors, le contact avec la Fondation Langlois, peut-être que les gens ne connaissent pas ici la Fondation Langlois, donc Daniel Langlois en 2000, c'est un très grand homme d'affaires au Québec qui a créé une société, vous connaissez peut-être, c'est Soft Image, qui est une grosse société d'image de synthèse, qui l'a revendu, donc un multimillionnaire à 35 ans. Il a eu l'idée de créer une fondation privée qui traite des rapports entre art, science et technologie. Et donc il s'est dit, justement, il y a un champ qui n'est pas traité, qui est ce champ des œuvres artistiques avec un contenu scientifique et de technologie. Et donc il a créé cette fondation avec une série de bourses pour accueillir des chercheurs.
La majeure partie des financements de la fondation sont liés à la production d'œuvres. La première chose qui se passe, ça a été en fait de financer des artistes comme Jeffrey Shaw, Tony Dodd, Henri Courchet, etc., pour produire des œuvres numériques. Ça a été un premier volet. Et un second volet, c'était l'ouverture d'un centre de recherche et documentation où ils ont réuni à la fois toutes les publications. Ce domaine-là, et c'est déjà pas évident d'avoir accès à ces écrits-là, tout simplement. Par exemple, à Paris, moi je ne connais pas de lieu qui va dans le fond. Donc ils ont réuni tous ces documents. Il y en a beaucoup, par exemple, de ces domaines d'artistes qui n'ont pas forcément été édités. Donc, collection extrêmement riche, on a des centaines de photos de fleurs que des artistes ont fait et qui sont réédités. Aujourd'hui, se pose la question de la durée de vie de cette famille. Ils ont, dans le cadre de ce centre de recherche, décidé de demander à des chercheurs de venir travailler sur leur fonds d'archives, puisqu'ils acquéraient en fait les archives de certains artistes. Voilà l'organisme qui est l'EAT, qui est l'Expérience des Arts et Technologies, qui a été créé en 1966. Également l'artiste du fonds des Basio voilà, de grands artistes comme ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des chercheurs d'étudier ces archives-là, d'en rendre compte, et notamment de choisir quelles étaient les archives à numériser et à publier sur le site internet. Donc la stratégie n'était pas du tout de dire on a un fonds d'archives, on numérise tout, on a tout sur internet, mais on prend des archives, des chercheurs qui sont considérés comme des experts pour sélectionner certaines archives, les présenter, les expliquer dans leur contexte et les numériser, les proposer la numérisation de ces documents au lecteur. Et tout ça sur une plateforme internet. Voilà, donc ça c'est le projet. Aujourd'hui, ils ont développé un nouveau programme de financement qui est plutôt lié au soutien de structures dans les pays en voie de développement qui s'associent avec des pays développés. Par exemple, il y a en Inde, il y a un projet qui est sur comment est-ce qu'on peut faire des captations et enregistrer les mouvements de certaines danses traditionnelles qui vont disparaître liées à l'évolution de l'évolution. Donc, c'est des programmes de recherche comme ça qui sont plutôt liés à des pays en voie de développement et le fonds d'aide aux artistes contemporains. Alors, ça, c'est un peu les activités de la fondation. Là, pour revenir sur la question des archives, il me semble qu'il y a deux axes importants. Il y a d'une part la question de simplement de l'histoire de la scène, qui est comment est-ce qu'on en rencontre, est-ce que toutes les expériences qui sont menées dans ce domaine-là sont développées, comment est-ce qu'on les analyse, quels sont les grands axes de recherche, est-ce que ça implique en termes d'esthétique, d'écriture, de dramaturgie, toutes ces questions-là. Donc, ça veut dire que c'est plutôt un travail de chercheur d'historien du théâtre traditionnel. Et il y a une autre question qui est comment est-ce que ces documents-là, ces expériences-là, bénéficient directement aux autres artistes qui travaillent aujourd'hui avec cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des écrits qui vont plutôt s'adresser soit au grand public, aux personnes intéressées, vers un public beaucoup plus large, des étudiants en histoire de l'art, des étudiants en théâtre, des chercheurs, des historiens, etc. Et par ailleurs, vraiment des compagnies qui travaillent sur ça, qui ont besoin d'informations extrêmement pratiques et surtout une dimension de réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que vous faites avec Megascani. J'ai souvent rencontré Georges, je pense qu'il aime bien. C'est justement essayer de recréer un réseau pour qu'il y ait des échanges. Et donc, c'est deux types de documents qu'il faut arriver à créer des passerelles entre eux aussi. Je dirais que c'est un peu deux problématiques sur la manière dont on les présente qui sont un petit peu différentes.
Ce qui est assez intéressant, en Amérique du Nord, notamment au niveau de la Fondation Langlois, c'est qu'en fait, il y a une prise de conscience par rapport aux problématiques d'archivage sur les œuvres art plastiques. L'humain, évidemment, au niveau audiovisuel, en France, est tout à fait représentatif. C'est une référence, mais au niveau art plastique ou art de la scène, il y a vraiment une prise de conscience. Le risque de perte de patrimoine total. Et donc, pour nous, c'est extrêmement intéressant d'entrer dans ce projet-là parce qu'on a un peu l'impression qu'en Europe, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas une conscience collective qui est éveillée par rapport à cette problématique. Et donc, là, le fait de faire ce projet, pour nous, est extrêmement important.
C'est aussi quelque chose qui nous paraît important, c'est aussi redonner la parole à des gens qu'on a un peu négligés, qui sont des ingénieurs, qui travaillent en collaboration avec les artistes. Par exemple, on a besoin de Tamimi et de Fred Rochenberg. On ne peut plus présenter au public parce que les ingénieurs qui les ont créés sont une génération qui est tout simplement en train de mourir. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils sont âgés de moi, ça disparaît. Et du coup, il y a toute une somme de connaissances qui est en train de disparaître la parole de ces personnes, y compris le mode d'emploi des œuvres. Enfin, je vois des choses qui paraissent basiques, mais qui n'ont pas été prises en compte. Mais il y a des œuvres qui n'ont pas été présentées. Et ça, c'est pour des œuvres qui fonctionnent avec l'électronique. Alors, avec le mode d'inflation, c'est exponentiel.
Ok, on va peut-être passer à la présentation.
Alors,
on va faire des questions sur l'archivage. Voilà, je te cède la parole.
Donc vous voyez là sur le site de Didascalie, pour vous montrer là le premier lien qu'il y a là, c'est donc groupe de travail sur outils et pratiques du sonore dans le spectacle vivant. Voilà. Alors, donc les objectifs. On a deux objectifs qui sont mettre en œuvre le questionnement des pratiques, des outils et des métiers du sonore dans le contexte du spectacle vivant, donc un peu au sens large, théâtre, danse et. Aussi concert étendu, multimédia, où on va intégrer d'autres composantes que uniquement la musique et les interprètes musicaux pour en dégager des particularités et des usages. Et ensuite, établir un état de l'art des environnements logiciels qui existent pour la composition et l'interprétation ou l'exécution du sonore dans le cadre du spectacle vivant. Et ça, c'est un petit peu le projet à venir, c'est de dégager les perspectives de développement qu'il pourrait y avoir d'environnements un petit peu efficaces et génériques. Donc dans ce groupe, il y a trois types de personnes, en gros. Il y a des régisseurs et des réalisateurs son pour le théâtre. Olivier, qui est là, et Guy Lévesque, qui est à Québec, la compagnie Incident Mémorable. François Weber, qui est formateur son ici à l'IFTS et à l'ENSAT. Et ensuite, il y a des compositeurs qui travaillent en lien avec le spectacle vivant. Il y a Tom Maïs, Mathieu Chamagne, moi-même et Nicolas Carrière. Et alors, le point commun de tous ces gens, c'est qu'on a développé des environnements... audio, tous dans Max d'ailleurs, un petit peu générique, qui était donc avec deux objectifs. D'une part, être vraiment réactif et aller vite, et être pouvoir aussi avoir le regard, pouvoir regarder son plateau et pas passer du temps, par exemple, collé à l'écran, ce que je pense est important, et un petit peu la généricité, donc transmettre cet outil aux autres et essayer d'en faire un outil un peu utilisable, quoi, par quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissance en Max. Voilà, et à ce groupe de développeurs, disons, s'est joint tout un nombre de responsables de structures. Donc il y a Georges Gagneret, qui est celui qui a fondé la plateforme Didascalie, qui est directeur artistique de la compagnie Incident Mémorable et metteur en scène, concepteur de dispositifs interactifs multimédia et qui est initiateur du groupe de travail. Il y a Francis Faber, qui est directeur de la compagnie de la Grande Fabrique, qui travaille en lien avec Tom Maïs. Il y a Thierry Bèche, qui est directeur du GME1, le groupe de musique électroacoustique d'Albi, qui est un centre de création musicale, qui travaille en lien avec moi-même, Nicolas Carrière et Mathieu Chamagne, Jean-Louis Barcebou, ici présent, responsable de l'enseignement son à l'ISTS. Christian Jacquemin, qui est chercheur en informatique au LIMSI CNRS, qui a travaillé avec la compagnie Incident Mémorable, qui a développé le logiciel qui s'appelle VIRCore, je ne sais pas si certains connaissent. Anne Cédès, qui est compositrice, enseignante chercheur en musique et outils informatiques au CICM, à la Maison des Sciences de l'Homme, à Paris 8, et vient de se joindre à nous le Jean-Marc Couturier, qui monte une SARL qui s'appelle... Hein ?
Jean-Michel.
J'ai dit Jean-Michel ?
Jean-Marc.
Oh putain, j'arrive pas. Qui monte une boîte qui s'appelle Blue Yeti, de un petit peu consulting et réalisation d'outils multimédia. Et voilà... qui est ingénieur-chercheur, hein, qui a fait sa thèse sur le contrôle gestuel au LMA, au CNRS à Marseille, et le correspondant donc, de l'Association française d'informatique médicale, qui est Thierry Coduit, de la Kitchen à Paris. Donc voilà, je vais passer un petit peu vite sur les sujets qu'on traite, vous irez les voir si vous voulez. Donc on s'est un petit peu posé la question des métiers du sonore, donc un petit peu sur les deux axes régisseur, réalisateur sonore et compositeur, et avec compositeur, un rôle qui existe assez peu, mais qui est amené à se développer, je pense, c'est celui d'interprète, d'instrumentiste audio, je ne sais pas comment dire. Donc on a un petit peu essayé de voir quelles étaient les différences culturelles, en quoi est-ce que ça s'opposait vraiment sur certains points, en quoi est-ce qu'il y avait aussi une convergence, et surtout, est-ce qu'il n'y avait pas des nouveaux métiers qui émergeaient de ça, qui étaient vraiment au croisement des deux, parce que c'est quand même des champs professionnels qui sont quand même... un peu historiquement, qui sont une conséquence historique. Et c'est vrai que dans la pratique, on retrouve complètement cette problématique, par exemple, des gens qui sont à la fois artistes et techniciens, qui sont vraiment entre les deux, et où on ne peut pas dire non, je fais de l'art sans me toucher les mains, c'est-à-dire les mains avec la technique. Quoi. Ça, c'est plus possible dans ce genre de champ. Quoi. Enfin bref, il y a tout un tas de questionnements là-dessus. Quoi. Donc, il y a la question donc, des nouveaux métiers, c'est celle-là, qui est aussi due évidemment, ça on le sait tous ici, la démocratisation de l'ordinateur, enfin, ce genre de choses. Il y a la question vraiment de l'écriture du sonore qui va un peu plus loin, qui est ailleurs que celle de juste l'écriture musicale et de la composition musicale. Donc bon, je ne peux pas vraiment résumer ça en deux minutes, donc vous irez voir. Et on a donc essayé de faire un état de l'art des outils existants pour l'audio, hein, parce que ce groupe-là, étant commissionné par l'association d'informatique musicale, s'est un petit peu concentré sur ça, parce qu'on ne pouvait pas tout faire avec un budget assez réduit et un temps assez réduit. Donc on a essayé de voir un petit peu les besoins. Nous a semblé que par rapport au spectacle vivant, il y avait deux besoins, deux axes principaux, c'était la réactivité et l'ergonomie. Donc la réactivité, elle peut être de deux sortes, par rapport à l'écriture, c'est-à-dire par rapport à la malléabilité de ce qui se passe sur un plateau, fait qu'on peut changer des choses facilement, qu'on a des humains, et que finalement les humains, c'est assez réactif. Quoi. C'est vrai que, surtout quand on a un peu des outils qui sont fabriqués ad hoc, comme une espèce de patch max, dès qu'on veut changer quelque chose, ça devient l'horreur. Dès qu'on veut changer l'ordre des séquences, c'est l'horreur. Dès qu'on veut... On peut improviser un truc, ah, le metteur en scène va dire c'est super, ça tu me le fixes, bah oui, mais j'en ai pour deux heures. Enfin bon, il y a tout ce genre de questions que vous connaissez certainement tous. Et puis, il y a la réactivité par rapport à l'interprétation, donc on a de deux ordres, soit pour le régisseur ou l'instrumentiste audio, pour qu'il ait une part de sensibilité pour cette partie-là qui est, je pense, super importante, et qui, voilà, dans un certain sens, tire un petit peu le métier du régisseur vers celui d'interprète, et d'avoir une sensibilité, une écoute, et presque, enfin, et même, pas presque, un regard artistique sur les choses, je pense que c'est absolument primordial. Et puis l'interprétation par le comédien, le danseur ou l'interprète qui va se trouver sur le plateau. Donc quel rapport on va créer avec des capteurs, de la caméra, ou tout ce qu'on veut, des micros, peu importe. Donc ça, il y a ces questions-là. Comment est-ce qu'on va écrire avec ça et comment on est réactif? Comment on va faire des, je sais pas moi, des accès gestuels, des mappings qui évoluent, des mappings dynamiques. Enfin, il y a tout un tas de questions là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a la question de l'ergonomie. Pourquoi il n'y a pas d'image? Normalement, il y a une image, j'essaierai de la remettre. Ça doit être cassé, le lien, je ne sais quoi. Donc on s'est dit qu'en gros, il fallait que ça soit un petit peu transparent pour l'utilisateur, articulé sur un peu la dichotomie interface-moteur, et entre l'interface et le moteur, évidemment, un protocole de communication. Donc là, normalement, il y a un joli schéma avec les entrées de contrôle audio et vidéo, les moteurs, les sorties, et puis il nous a semblé que c'était bien au niveau des interfaces, qui se fait au-dessus, de séparer entre interface de création, interface de conduite ou d'interprétation. Je vais y revenir. Donc, moteur audio, donc on a appelé moteur audio l'ensemble des processus qui vont générer, transformer et diffuser les matériaux sonores. Alors ça peut être divers logiciels, environnements, sur une ou plusieurs machines, enfin peu importe. C'est vraiment, quelque part, presque une boîte noire qui peut évidemment être évolutive, modulable. Ça, c'est pas la question. Qui peut lire des fichiers son, des synthétiseurs, des traitements du son, des aspects spécialisation, enfin un peu tout ce qu'on veut, tout le traitement. Et donc on a séparé ensuite, pour ce qui est de l'interface, interface de création et interface d'interprétation ou de conduite. Il nous semblait que c'était vraiment important d'avoir ces deux pôles. Donc interface de création, qu'est-ce que ça serait? Ça serait vraiment un espace où, en gros, de construction, où on a tous les éléments, c'est complètement ouvert, on a tous les éléments, on peut décider de les connecter, de les construire comme on veut. Alors avec un peu plus haut niveau que par exemple Max MSP, où vraiment on va construire chacune des choses, on voit un petit peu plus méta et plus descriptif. Voilà, on construit en gros nos processus sonores ou vidéos, mais voilà, avec une totale ouverture, quoi. Et ensuite, qu'il fallait qu'il y ait une interface d'interprétation ou conduite qui fasse qu'au moment du spectacle, au moment du rendu, le régisseur n'a pas besoin de voir tout ce qui se passe. Et a priori, il s'en fout. Et donc avec l'idée de, par exemple, plusieurs pages qui pourraient apparaître et qui géreraient des états ou des moments du spectacle où, en gros, le régisseur ou l'interprète, celui qui manipule, n'a accès que ce à quoi il a besoin et n'a des retours que de ce dont il a besoin, avec vraiment des façons de faire très descriptives, quoi. C'est-à-dire pas du tout technique, vraiment sur des paramètres artistiques d'assez haut niveau, du genre, je ne sais pas. Avec presque, ça pourrait avoir des appellations politiques, j'en sais rien, enfin vraiment pas volume de trucs, filtre de machin, ou des choses comme ça, vraiment beaucoup plus haut niveau. Et ensuite, ben, ce qui me semblait hyper important de mettre entre les deux, c'est le protocole de communication. Donc là, il y a, bon, évidemment, on a un peu regardé ce qu'il y avait, il y a le MIDI, je crois que c'est un peu plus technique, le MIDI, tout le monde connaît, qui marchait très bien, mais qui est vraiment un peu quand même vieux, quoi. Et il y a l'OFC, où là, il y a vraiment une grande dynamique en ce moment qui se passe. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, là, après le 9, il y a tout plein de choses qui se mettent en place pour essayer de faire un OFC 2.0, comme il y a le Web 2.0, pour vraiment avoir des systèmes intelligents qui puissent se parler, se reconnaître, annoncer leur langage, tout ça. J'y reviendrai certainement. Bon.
OSC, c'est Open Sound Control.
C'est ça. Excusez-moi, c'est un peu technique, j'avais prévu. En même temps, on est obligé de passer par là un moment. Alors, donc on a un petit peu fait le tour des logiciels et des environnements audio utilisés dans notre spectacle vivant disponible pour l'instant. Donc, je dis bien logiciel et environnement audio. Donc, au niveau des logiciels, il m'a semblé que celui qui était un petit peu répandu et à juste titre, c'est Live, qui est hyper bien fait, super pratique, efficace, solide et tout ça, qui marche très bien dès qu'on veut faire des déclenchements de son, des choses un petit peu gestuelles, mais dès qu'on veut pousser, pareil, sur, on va faire de l'interaction, des choses un peu plus pointues, des écritures un petit peu plus étranges, ben, c'est très limité, c'est uniquement MIDI, enfin bref. Donc, c'est super, mais c'est limité. En tout cas, nous, ça ne nous satisfaisait pas. Ensuite, on a vu qu'il y avait plusieurs logiciels existants comme Pocket Sound, Seccon, QStation, le séquenceur de l'Odéon, qui sont aussi très bien faits, mais qui sont en gros des portages de, des implémentations de la, d'une régie classique pour, dans un ordinateur, ce qui est très bien, et ce qui est pareil, est très utile, et qui a un autre but que Live, mais enfin bref, ça marche aussi très bien et c'est parfait. Et on a un petit peu regardé du côté de Jade, qui me semblait ce qui était le plus proche de ce qu'on cherchait à faire, mais qui n'est pas maintenu et qui en gros a été transformé en un truc qui s'appelle Janoma, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Ça va, je suis pas trop long
Parce qu'il est 4h20, je ne sais pas si, si on va
aborder. Je ne sais pas si c'est utile en fait, de parler de Janoma, qui me semble déjà du détail par rapport en fait à.
Donc bon, bref, pour aller très vite, on a regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des environnements, c'est-à-dire des choses MaxMSP ou Pure Data. Qu'est-ce qui avait été fait comme environnement là-dedans? Il y en a plein, il y en a 15, 20, je ne sais pas combien, chacun a fait le sien, chacun. Voilà. Et en gros, rien n'est généralisable. Donc on s'est un peu posé la question. Et en même temps, c'est quelque chose qui émerge beaucoup partout, d'essayer de généraliser ça et d'essayer de faire des choses un petit peu plus protocolaires. Et c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné, quoi. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Janoma, Integra, c'est des choses qui existent. On s'est dit qu'il y avait quand même une chose importante, je vais en parler, c'est dès que dans une optique comme ça, ce qui serait quand même important, c'est d'avoir trois niveaux d'utilisateurs. Les utilisateurs finaux qui vont être ben, quelqu'un qui justement n'y connaît rien, avec MSP ou un régisseur, un compositeur qui veut juste manipuler. Il y aura un truc qui marche tout seul, des développeurs de modules ou de librairies qui vont un petit peu ben, voilà, fabriquer des processus qui après vont pouvoir être intégrés dans les moteurs, et le développeur de l'environnement qui va un petit peu développer les bases. Donc voilà. Donc là, ça c'est un petit peu le travail qu'on a fait sur ce groupe Affine. Et au niveau du travail futur, ben, on essaie de voir comment on pourrait intégrer d'autres participants. Essayer de mettre en œuvre une espèce de dynamique un peu globale pour faire des choses vraiment, vraiment ben, plus poussées que juste faire des patch max et beaucoup plus manipulables et tout ça, donc avec des idées d'interface un peu intelligentes, comme je sais pas, il y a ce truc là qui a été développé par des New Yorkais, là, qui est une espèce d'interface multi-touch pour manipuler les choses. Ça, c'est une direction qui nous semble incontournable. Je sais pas si vous connaissez. Vous avez entendu parler, ou il faudrait que je mette un lien là-dessus. Enfin bref, essayer de voir à développer cette chose-là, qui est forcément un travail de longue haleine, qui est un projet de développement de plusieurs années, avec des gros budgets, avec beaucoup d'intervenants et une mise en réseau importante, quoi. Donc évidemment, on est très ouvert par rapport aux convergences de participants. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions.
Ça, c'est un module qui va s'adresser à lui, qui va s'adresser à des techniciens, qui va s'adresser à des régisseurs. Ça devrait être un outil de régie. Alors, bon, actuellement, en régie, lorsqu'on parle de l'âge, lorsqu'on parle de contenu, lorsqu'on parle d'after effects, on utilise en régie des effets qui ne sont pas faits pour la mettre sur le document. L'idée, c'était de détourner une bonne fois pour toutes et d'arriver à quelque chose qui sert effectivement au régisseur. Donc, c'est la démarche qui a été aussi mise avec mais non, l'idée du projet qu'on avait initié, l'ISTS, qui n'a pas pu se faire, enfin, qui est gelé pour l'instant, voilà. Voilà, pas de sous, point, ça. C'est en fait, voilà, c'était simplement de réaliser un petit spectacle, un spectacle de théâtre avant tout, donc en impliquant d'abord en mettant en scène et en artiste, en la mettant dans les mains, et cette petite solution technique qu'on connaît par cœur, pour monter un petit spectacle qui s'excelle. Et ensuite, avec ce spectacle-là, ouvrir un débat avec des metteurs en scène d'artistes d'abord, qui sont aussi forcément à ce moment-là, et pouvoir à ces gens-là leur donner des petits bouts de logiciels, des petits bouts de logiciels immatériels, voilà, des petites solutions pour faire la même chose, mais surtout pour se l'approprier et aller ensuite. Mais là, il s'agit simplement de sortir les modules dont je parlais, c'est simplement des petits bouts, par exemple, de logiciels, complètement fermés, beaucoup moins ouverts que ce qu'on fait là, mais utilisables directement par n'importe qui. Donc ça, ben, plus tard.
Voilà. Moi, j'ai juste une question par rapport à ce que tu as expliqué. Donc, vous avez fait un état de technique général, et là, vous avez une perspective de développement à trois niveaux que je vous ai expliqué. Est-ce qu'il y a déjà des perspectives temporelles qui ont été dégagées? Vous avez déjà une idée de...
Non, en fait, ce groupe AFIM doit se terminer en mai-juin l'année prochaine par une présentation aux journées d'informatique médicale qui seront présentées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est en fait utiliser le temps qui nous reste sur ce groupe de travail pour monter un projet à plus grande échelle qui va être un projet à long terme sur 3 ans, quelque chose comme ça, avec. Je ne sais pas encore quel mode de financement on va demander des financements, avec quel partenaire, et avec l'idée d'un petit peu continuer dans cette dynamique entre des praticiens, des compagnies de théâtre, des compositeurs, des centres de recherche musicale, des organismes de formation, là il y a l'ISTS, NSAP, des choses comme ça, et l'université, donc pour des labos, par exemple, là c'est évident pour ce genre de travail, c'est une relation avec des labos d'IHM, la face comme machine un peu puissante, choses comme ça. Et aussi des entreprises, donc là comme il y a Blue Yeti, on va voir aussi du côté de Jazz Mutant, des choses comme ça. Donc essayer de voir un petit peu retrouver les énergies. Quoi.
Construire.
Hein ?
Vous êtes en train
de construire les ponts, oui, c'est ça. Ouais.
C'est ça, de laisser trouver les partenaires, faire un projet de développement qui serait un projet à 3 ans.
Ouais, au moins, c'est pas un
peu l'estimation.
Oui, c'est ça. Je pense que, de toute façon, plus rapidement que ça, c'est pas...
Non, je posais la question parce que c'était pas mentionné.
C'est dans la conclusion que j'ai pas encore écrit que je vais faire demain.
Ça
a été présenté lundi, enfin voilà, quoi. On est en pleine discussion, mardi, on a fait une réunion, tout ça avance, c'est vraiment là, c'est en train de bouillonner. Là,
okay.
En ce moment.
Juste une question, ça, c'est la page publique,
et
c'est la page privée.
Oulala. Sur les pages privées, il y a plein de discussions par rapport à ça, quoi. Donc je sais pas.
C'est des discussions, c'est aussi des logiciels pour des morceaux de pages entre
vous. Oui, il y a des choses comme ça. Là, par exemple, on est en train de faire, mais ça c'est surtout pour nous, et puis c'est comme moi j'appelle ça une sorte de bac à sable, quoi. On est en train d'essayer de voir avec nos différents logiciels là qu'on a fait, de un petit peu tout porter dans ce diamant-là dont je parlais, qui est une espèce de protocole. De petites coquilles qu'on met autour de ces pages pour qu'ils soient qui parlent en OST, qui parlent les uns avec les autres, qui se reconnaissent tout de suite, qui est pas trop mal fait, quoi. Et donc c'est on est en train de construire ça pour diverses utilisations, pour les projets que doit faire Olivier, pour moi des projets que j'ai avec le GMA, le spectacle vivant, pour une formation qu'on va faire avec Georges Gagnon au TNS à l'entrée. Donc ça c'est un truc qu'on fait comme ça un petit peu entre nous et qu'on diffuse par un cercle concentrique, donc autour de nous, tout en maîtrisant, et notre objet n'est pas du tout de communiquer par rapport à ça, ou de distribuer ça, parce que ça n'en est pas là, et c'est pas le but de ce truc-là, c'est vraiment un laboratoire pour nous, pour voir aussi se confronter à des problèmes concrètement, quoi. Mettre un régisseur dessus qui nous dit, mais non, c'est nul, ton truc, ça marche pas comme ça, ou ça, je comprends pas comment ça marche, c'est pas du tout clair. Donc, enfin, ça, c'est ce qu'on fait, une espèce de groupe un peu parallèle de ce qui se passe au niveau de la film. Quoi.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent, ou si pas, on rebondit vers d'autres sujets de discussion, commune, Estelle, non. Oui, juste, est-ce qu'on pourrait peut-être, peut-être parler justement, comme on avait la même question tout à l'heure, justement, sur, par rapport à votre expérience personnelle de vouloir créer des environnements sonores, sur en fait comment ce qui peut être proposé, je rappelle à la fois en formation courte, en formation longue, par exemple, peut-être pour des créateurs qui souhaitent intégrer. Voilà, le créateur, plutôt que toi, parce que là, c'est un peu plus dans un champ de technicien-régisseur.
Ah non, pas du tout. Non, pour moi, enfin oui, on travaille par rapport au régisseur et à l'interprétation, mais pour moi, il y a déjà le fait que, enfin, c'est pas seulement. Il y a le fait que les régisseurs, déjà, ont aussi, sont souvent mandatés pour faire des rôles de créateur, alors ils disent, tu veux faire telle bande, alors qu'ils ne sont pas compositeurs, ils se retrouvent dans une position de réalisateur sonore, sans que ce soit bien clair. Ils ne sont pas payés pour ça non plus, dans une question. Et il y a aussi pour moi un truc qu'il ne faut pas du tout laisser tomber, c'est aussi le fait qu'il y ait des créateurs qui fassent quelque chose qui après soit utilisé par des régisseurs, des interprètes, où vraiment on va avoir une pensée du son qui n'est pas juste illustrative, qui n'est pas juste soumise à la mise en scène, des choses comme ça. Si on veut vraiment travailler dans une transversalité, ça veut dire qu'on donne autant d'importance au discours sonore qu'au discours théâtral ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que la part de création pour moi est vraiment à défendre, hein, parce que c'est pas juste un espèce d'outil pour faire du sonore. C'est vrai ?
Non, parce qu'en fait, il parlait de quelqu'un qui est créateur, il parlait de quelqu'un qui est créateur.
Oui, je parlais de tout.
Ah ouais, mais le créateur sonore est un créateur.
C'est bien. Oui, donc moi je posais la question d'un metteur en scène qui justement n'a pas... capacité à étudier un certain nombre d'outils. Justement, quelles peuvent être les possibilités qui ont expliqué que j'ai fait un stage dans l'atelier à l'ESPS?
Oui, alors en fait,
est-ce que ça a été un atelier commun, un atelier commun?
Pour la plupart, on a trouvé que c'était trop court. Enfin, c'était trois semaines, ce qui est relativement court. J'étais la seule. Ah oui, elle est bonne. Mais enfin, ça dépend. et j'étais un peu la seule du côté du côté des mises en scène. Ça, les autres étaient parce que tous régisseurs, musiciens.
Profil,
voilà, Stéphane, c'est un petit peu. Et bien sûr, là, c'est pour ça que je suis toujours des guillemets artistiques à la question de la en soucis. C'est. Enfin, moi, je n'ai pas vocation à me substituer. Là, c'est aussi bon, parce que j'adore ça, je fais ma bande son, mais ma vocation, moi, elle n'est pas à me substituer au créateur sonore. Simplement, il y a un moment où j'ai besoin de savoir comment l'appréhender, en fait, le connaître pour l'appréhender, puisque tout ce qui est production, la création, elle commence vraiment au moment où on fait la production qu'avant, donc c'est appréhender au niveau du temps, des coûts. Tout ce qui est faisable et tout ça étant extrêmement mêlé, puisque ce qu'on va demander va prendre le temps va faire évidemment varier le budget. Enfin, voilà, donc c'est trouver un peu cette adéquation-là. Et avec l'idée qu'on est habitué, en fait, on est une génération où on déroule sur l'ordinateur plus ou moins de bonheur, moi plutôt avec bonheur, mais avec le bonheur de Mac, qui est en gros, on appuie, ça marche, pour caricaturer, mais c'est un petit peu ça. Qui fait qu'on peut avoir tendance à se dire bah, c'est super, Max, on appuie, ça marche. Oui, certes, mais voilà, par exemple, le temps de demander une modification par rapport à couper une bande et la recoller, enfin, genre, c'est surréaliste. Enfin, donc c'est un peu tout ça, et puis aussi savoir ce qui est possible, parce que je pense que, qu'on soit dans l'illustration, je ne vois pas, par les mots. Pour nourrir l'imaginaire, il faut aussi savoir un tout petit peu ce qui est faisable, ou en tout cas ce qui est. Espèce de champ possible. Et ce qui était malgré tout vachement bien dans ce stage-là, c'est qu'on était à peu près personne à la même place, que finalement, vous, au départ, vous avez dit « waouh, ça part dans tous les sens », puis qu'on a un peu tous retrouvé plus ou moins nos places habituelles en dehors, et que ça me semble, hein, que ça s'est recalculé sur les 3 semaines, chacun a pris ses places à la fois en se nourrissant des autres, et que ça, c'était vachement bien, parce que finalement, on arrivait à chacun répondre à ses propres questions. C'est-à-dire que, bon, c'était régissons logique, donc on préférait faire le lieu de mérite, je pense, c'est un truc qui est un peu de mérite. Je n'ai aucune question à faire. L'installation sonne dans un truc, donc j'ai passé mon temps à me défiler sur tous les étages, le chemin, etc., avec un bonheur dissimulé. Mais voilà, pour dire qu'on sait que ça, c'était assez bien qu'il y ait cette liberté-là, ce qui fait que ça passe, que je pense que c'est compliqué d'avoir un public qui est extrêmement hétérogène. Moi, d'avoir quelque chose de trop rigide, voilà, j'aurais eu du mal à faire mon tri et à me dire, bah, finalement, j'ai ces 20%-là, les autres ne sont pas assez là, soit parce que ça ne m'intéresse pas, soit parce que je ne comprends rien. Enfin, les deux sont possibles. Donc voilà, j'ai trouvé que cette espèce d'alchimie, c'était pas mal fait, et que finalement, on allait soi-même à la pêche. Et on faisait le stage. Enfin, moi, je pense ça de la plupart des formations continues, c'est-à-dire qu'on fait. Le stagiaire fait autant le stage que le formateur, d'une certaine façon.
C'était un stage.
Oui, c'est un stage à place. Effectivement, le fait d'avoir un public très divers, des cercles complexes, on fait des stages comme ça. Mais dans les stages que je fais, j'avais beaucoup de monde, justement, dans les salles des artistes, mais du coup, parce que c'est une source d'aventure. En fait. Et ça remet en cause beaucoup de choses à l'intérieur du stage, et c'est aussi, ça fait avancer énormément, parce que la plupart des stages que je fais se terminent par une présentation, une mini-réalisation artistique, mais ça aide effectivement à faire avancer le groupe vers des objectifs qui ne sont pas des objectifs techniques, mais qui sont.
Ce que tu disais par rapport au fait que le stage est intéressant, très jeune aussi pour le formateur, parce que ce stage, c'est aussi quelque chose qu'on observe assez souvent chez nous, parce que c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler, par exemple avec Label, qui est de la trilogie technologique de Monaro, au départ c'était pas évident qu'il accepte de faire des ateliers sur l'utilisation des vidéos, le fait qu'il livrait de choses qu'ils avaient développées eux-mêmes pendant plusieurs années. Et finalement, en fait, le processus est extrêmement intéressant pour nous aussi, parce que le fait d'être confronté à des demandes, on n'est pas obligé de structurer lui-même ses connaissances, qu'il n'avait pas, c'est-à-dire qu'il était dans un poche de création. Donc le fait de devoir faire un atelier, ça l'oblige à structurer son savoir, donc déjà ça, c'est un échange déjà intéressant, autrement il n'a pas le temps de faire. Et puis le fait d'être confronté à des stagiaires qui lui posent des tas de questions, mais pour lui c'est extrêmement enrichissant. Ça l'oblige à être vraiment au fond de sa compétence, de sa voix. Et donc, c'est un processus très différent d'un processus de production traditionnel dans lequel vous avez l'habitude de travailler. Et c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, on a l'impression que quand on a démarré, on pense que tout ça se passait comme ça. Et après coup, après 2 ans, c'est le stage qui a été énormément apprécié, parce que c'est un stage homogène. Il y a beaucoup d'autres stages qu'on fait dans des populations assez hétérogènes, vous avez des étudiants, il y a des gens de l'auteur en scène qui sont déjà dans la production, qui ont des projets précis. Donc ça crée parfois une certaine hétérogénéité dans le groupe. Et là, évidemment, c'est un groupe assez homogène. Donc oui, c'est le plus important. Je sais que ça doit apporter beaucoup.
Peut-être qu'on peut parler un peu de la façon dont ça s'est passé, peut-être, tout à l'heure. Parce que bon, on peut dire qu'il y a eu 3 parties, enfin, je ne sais pas si c'est de côté, quoi. Mais vraiment, pour nous, en tout cas, apprenti metteur en scène, 3 parties vraiment très intéressantes. Je crois qu'il y a eu vraiment une première partie qui est une dédramatisation de la technologie qui m'a semblé vraiment super importante. C'est-à-dire, en fait, la première chose, c'est qu'on a vraiment compris qu'il s'agissait d'un artisanat. Et que chaque problème a une solution, il s'agit d'être adaptable, de s'adapter aux circonstances économiques et techniques à un moment précis, à un moment donné, et ça c'est vrai que ça a
très sensiblement dédramatiser votre rapport, notre approche de la technologie, je pense un petit peu.
C'est quand même aussi une chose, c'est toi tes formations d'ingénieur avant d'être en scène.
C'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même assez de sa dédramatiser. Je pense que c'est quand même assez général dans ce monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc un premier moment qui correspond à exactement à ce que Pascal Taylor a dit, c'est-à-dire bon, je pense que Isabelle a dû faire un petit peu un travail un petit peu sur lui-même pour nous livrer quand même différentes facettes de son travail. Et après, et ben, on s'est retrouvé finalement, on a montré quelques bases sur les outils qu'il utilisait, donc on a Gun, After Effects, on en a parlé, et puis après c'est essayer un petit peu sur vos idées, sur vos projets à vous, c'est commencer à faire quelque chose. Donc effectivement, nous on se retrouve avec nos idées un peu créateurs à essayer de faire quelque chose. Alors, forcément, on n'y arrive pas complètement, parce qu'on n'est pas technicien spécialiste de ça. Et à partir de là, lui va se poser des questions, on va se mettre à discuter avec lui, à voir avec lui comment ces choses-là, on peut les réaliser. Et donc c'est vrai qu'on a pu vraiment, je pense, initier un vrai travail de collaboration avec une idée qu'on a envie de réaliser, et comment est-ce que ça peut se matérialiser, quelles solutions on peut trouver pratiquement dans un cadre précis. Alors d'abord, c'est un cadre très simple, c'est vrai, c'est plus simple qu'il y a une dizaine d'années, le simple d'un Mac, ou même d'un PC, et on trouve manipuler un logiciel, on peut faire chez soi, à l'auberge du Grès de Mons, on peut s'amuser à faire des trucs, tout ça. Et après, sur le plateau, effectivement, avec des vidéos proches et tout. Donc, il y a eu vraiment, je pense, ce va-et-vient un peu constant, et avec nous, essayer de mettre un petit peu une forme de main à la pâte, mais avec la nécessité, effectivement, alors là, pour revenir là-dessus, c'est-à-dire nous, une première idée là-dessus, et puis alors, la création derrière du créateur, donc là, en l'occurrence du vidéaste, qui vient compléter un petit peu une première idée, qui vient éventuellement apporter de nouvelles choses, qui vient aussi, surtout, trouver une solution pratique. Et disons, on est capable aussi avec une possibilité de communiquer, c'est-à-dire on commence à avoir un minimum de bagage commun, sans être forcément au départ.
Mais je crois que pour beaucoup de techniciens, c'est comme ça aussi. On appelle des outils, et c'est pareil à la créativité de soi. De nous, qu'on nous demande, donc on finit sans s'en servir à la développer. Les techniciens, une formation des techniciens avec tous ces nouveaux outils, c'est pas forcément. Je connais énormément qui sont dans la même problématique qu'un différencier, qu'un musicien,
ou un percussion, ou une étude de cas, comme tu disais tout à l'heure.
Parce qu'on a des
histoires. Toujours à partir du moment où il y a un délire qui dépasse. La compréhension technologique, on a fait des sujets. À partir de là, ça devient concret.
Vous savez, c'est l'outil d'atelier auquel on participait, c'est vraiment un atelier court, une semaine, qui permet, comme je disais, un peu de travailler, donc d'avoir montré des formateurs, montrer un certain nombre d'exemples. Un peu dans chaque contexte, en deux jours, on peut avoir un peu une telle technique en fait, dans le champ considéré, et après, c'est un peu du typage, c'est travailler sur un petit concret, on va sur le plateau, etc. C'est vraiment très court.
Mais c'est vrai qu'on revient vraiment sur la question de la transmission, donc ouais, tout à l'heure, ouais, parce qu'il y a que c'est la transmission des choses qui permet aussi de valider, de les faire perdurer, et puis de trouver une manière de faire, finalement, n'a aucune valeur si elle ne veut pas se transmettre.
Mais ce qui est vrai pour compléter, une des choses dont on avait discuté avec Clarisse Bardiot à l'issue de ce stage, c'est vrai qu'on s'était dit que c'est vrai que c'était une forme extrêmement courte, une semaine, c'est même pas trois semaines, c'est vraiment c'est même très frustrant d'une certaine manière. Et en même temps, dans cette semaine, il y a des choses qui sont courtes, et en même temps, il y a des choses qui sont presque longues aussi. En fait, on aurait presque pu imaginer que ça se passe vraiment en trois parties, mais cette fois un peu complètement séparées. Et vraiment, cette partie. Où on livre un bagage, c'est une partie où on est vraiment dans un échange direct. Et après, il y a une partie, peut-être même pour nous-mêmes, dans la transmission, où du compte, finalement, le label, on n'avait peut-être pas tant besoin qu'il soit là. C'est vraiment cette expérimentation-là. Bêtement. On est là à essayer de se planter. C'est bien qu'il soit là un petit peu pour lui poser deux, trois questions. C'est bien qu'il soit. Par contre, il était extrêmement nécessaire. Ensuite, une fois que nous, on s'est cassé un petit peu les mains là-dessus, de voir ce troisième moment qui est. Là, franchement, ici, on est perdu, on ne sait plus comment faire. Et là, ça devient extrêmement profitable parce qu'on a réfléchi, nous, de notre côté, on a mûri le problème. On pouvait même imaginer que c'était un problème, quelque chose qui se faisait de notre côté pendant un mois, complètement dans les murs, à notre sauce, avec un petit Mac de notre côté. Et Et puis, on aurait bien aimé repasser 4 jours, par contre, pas cette fois juste les 2 jours sur le plateau, mais 4 jours à plein temps sur le plateau, avec le travail qu'on avait mûri, sur lequel on s'était cassé les dents, avec les solutions qui peuvent être apportées par Yves, et puis avec l'expérimentation sur le plateau. Donc c'est vrai que, peut-être, enfin voilà, c'était une des choses...
Voilà. C'est une réflexion courante, ce que tu viens de faire, ce genre de formation, c'est la question que j'ai aussi dans les formations que tu fais au niveau numérique ou en masse. Effectivement, il y a besoin d'apprentissage, il y a besoin de tests par soi-même, de quelques possibilités, on aller plus loin. Donc, voilà, en France, c'est difficile pour le secteur de proposer cette formation à l'intérieur. Je dirais qu'il y a pas assez de contraintes qui en font.
Oui, je fais ça, mais. Sur une formation qui s'est étalée sur 8 mois, je crois. On a commencé en septembre, octobre, et on a fait 3 jours par-ci, puis 3 semaines après, 1 jour d'atelier, workshop vraiment pour les participants revenaient, essayer des choses. Il y avait un autre intervenant qui était là aussi, avec 2 formateurs, moi qui faisais plus les cours magistraux, qui faisaient plutôt les TP, quoi. Et comme ça, on a eu 15 jours de cours magistraux et 6 jours de l'atelier avec l'objectif d'une réalisation, c'est-à-dire que tout à la fin, il y avait une journée qui était organisée par le GMEA où en gros on avait un lieu et il y avait les participants faisaient soit des performances, soit des installations. Donc voilà, on a travaillé sur ça. Ça me paraissait vachement important. Et
c'est, je pense que c'est vrai au niveau des processus pédagogiques, mais c'est aussi vrai au niveau des créations. Mmh. On a beaucoup de compagnies qui viennent en création et qui sont souvent dans un canevas de temps de création pour faire des spectacles avec de la technologie. Les spectacles avec de la technologie demandent plus de temps, on demande un aller-retour, des périodes comme ça d'incubation, beaucoup plus que les spectacles traditionnels également, mais encore plus qu'en la technologie. Et c'est vrai qu'on peut, ce qu'on dit là pour la pédagogie, on peut aussi dans la phase de production.
Ouais, il y a des travaux qui sont
bons. On a par exemple un gros projet dans le cadre de Luxembourg 2017 qui est en culture avec Michel Morel, Thomas Tourneroff et Fred Vaillant, qui sont ces deux collaborateurs technologiques. Et là, on a proposé une résidence fragmentée, justement. Ils vont avoir 3 mois de création à la fin, c'est ça avec le CCM de Nancy, de la FFM, au niveau des danseurs. Donc, ils vont avoir 3 mois de résidence à la fin, c'est le cas justement dans cette création, mais avant ça, Thomas Tourneroff et Fred Vaillant vont avoir 6 fois une semaine chacun de résidence, avec chaque fois 3 ou 4 semaines entre eux, pour justement avoir une période comme ça d'incubation et de réflexion par rapport à chaque micro, on va dire, résidence. Mais c'est vrai que dans les processus pédagogiques, c'est aussi intéressant, mais c'est pas toujours évident.
Alors, cette réflexion, c'est dur aussi à gérer pour l'organisme, compte tenu des rapports avec.
C'est plus facile à mettre en place en formation initiale, en fait. C'est vrai que je suis vraiment en discussion avec les 2 personnes qui font des choses de la sorte. On va donc essayer justement d'avoir fait une première phase qui est simplement de l'acquisition des connaissances qui est la formation logicielle sur FinalCode, sur FinalCode, sur des choses comme ça. Ce sont simplement en fait des prérequis techniques qu'il faut acquérir à un moment ou à un autre, où le plateau n'est pas forcément une étape nécessaire. Voilà, c'est pas comment ça marche. Faire de l'officiel à minimum, et ensuite, vient cette étape d'expérimentation. Mais moi, je crois que c'est justement, ça revient par rapport à quand on a fait tout le thème de la présentation. Enfin, à partir du moment où il y a des stratégies de détournement des technologies, parce que ce ne sont pas des outils qui sont conçus pour les hommes de la scène, quoi qu'il arrive, il y a une phase d'expérimentation qui est nécessaire, que ce soit en phase de formation, que ce soit en phase de résidence, et quel que soit le profil, si c'est un régisseur qui met tout aussi, ça doit être assez utile, et savoir comment les détourner, ou les mettre au sec, qui est un niveau de langage. Donc c'est à partir du moment où on détourne, on est obligé d'essayer de ménager les phases d'expérimentation. C'est un peu délicat à gérer, c'est en fonction des contextes, mais...
Oui, je pense que c'est presque un moment où. Pour moi aussi, j'aime bien morceler. J'utilise assez peu la technologie, mais je pense qu'il y a un moment où il y a un moment presque de choix et de développement de l'outil pour. C'est un détournement. Parfois, c'est vraiment se dire Enfin, moi, je sais que étant, je ne me sens pas très complexée par rapport à la technique, mais peut-être très inconsciemment, et je trouve ça très bien. Mais en revanche, je sais que je tombe systématiquement dans une espèce de fascination où je me mets dessus, je trouve tout absolument magnifique, et je peux perdre complètement mon objet de vue. Quoi. Et je trouve que ce moment-là où on se laisse aller être complètement vraiment fasciné à regarder de tout près, je prends cette image-là, c'est aussi bien après de laisser du temps. De laisser du temps avant de revenir, quitte à laisser mûrir, faire complètement autre chose, aller sur un autre boulot, ça tombe, et puis l'espèce de l'engouement que je veux dire, ça se tombe, et puis on se recentre sur ce qu'on veut faire aussi. Mais alors je ne sais pas si c'est un problème technique, les stages morcelés, on en a fait beaucoup dans d'autres domaines qui sont vraiment purement administratifs, enfin, et qui sont, quand on travaille, sont très très pratiques, comme les stages de la GSIF, où c'est des petits modules comme ça, des modules de 2 jours et qui peuvent être allés sur 3-4 mois ou plus. Et c'est vrai que quand on voit, c'est aussi extrêmement pratique, parce que quand on a une structure, la quitter un mois et demi, c'est vachement compliqué, c'est vrai que c'est un moment où on va se mettre entre parenthèses et c'est assez complexe.
Le temps de me repencher sur la question.
C'est compliqué. C'est vrai que je défends cette idée de faire des résidences de création, donc avec les captations sonores, etc. Moi, je défends l'idée que ce soit morcelé, qu'on vienne une fois, puis deux fois sur le territoire, une troisième fois, pour avoir le temps de faire un vrai travail. Mais c'est vrai que par rapport aux gens qui achètent ces résidences, pour eux, c'est la science-fiction. On demande 2 semaines, on dit une semaine, et à la fin, il y a un spectacle avec la voix des gens. Et ça devient de plus en plus. Enfin, ça a été certainement avant, mais c'est très très dur de faire entendre aux gens qui achètent ce type de résidence. Alors, déjà, c'est un combat d'avoir ce type de résidence dans la musique qui n'est pas de la création électroacoustique ou contemporaine, qui peut être liée à la chanson. Déjà on arrive à ça, c'est pas mal, mais là on demande du rendement, et c'est cette idée de faire un travail de fond avec une vraie création sur plusieurs temps qui est nécessaire pour chercher au fond, justement avec ces outils, puisque mon propos est, outre les concerts, de proposer des installations, des outils de diffusion et faire des supports phonographiques, des sons collectés sur place. C'était bien parti, mais là ce que je vois, c'est qu'ils s'imaginent qu'en une semaine, on va sortir un disque, une exposition sonore.
Et c'est pour ça que je t'avoue que je suis en relation avec, par exemple, avec Henri Pierre, qui est un directeur technique, je suis plus jeune, qui est directeur technique de théâtre, il y a une association de directeurs techniques. Et je vois qu'à un petit moment, j'échafaude l'idée de résidence technique, qui a l'avantage d'être technique, donc pas de spectacle nous. Nous, on va expérimenter quelque chose, hein, pour un prototype très précis, d'un rendu sonore, d'un coupon de son, je sais pas, ça, où on explique qu'on a besoin du plateau, du système de diffusion, alors, ça peut être technique, ça peut être aussi de la lumière, des choses comme ça. Mm-hmm. C'est court dans le temps, on monte un truc, on regarde ce que ça donne, on dit ça, Dans l'idée, et il m'a semblé que dans l'idée, de plutôt approcher les directeurs techniques qui peuvent, eux, à la faveur d'un congé, mettre à disposition leur plateau, des choses comme ça, dans un certain nombre de cas, enfin, sur des périodes courtes, bien délimitées avec des gens très précis. Moi, j'appelle ça beaucoup mes voeux, on essaye de le développer avec Enfer, mais aussi d'autres gens, et puis l'association, j'espère qu'on a des associations, des détails franches pour rapprocher sur ce passage-là. Ce qui aurait vraiment été d'avantage.
Ceci dit, pour tempérer ce que vient de dire Philippe, tout été qu'on est, on est quand même confronté aussi à des directeurs qui sont ceux qui définissent la ligne politique d'entreprise, quoi qu'il arrive. Et ils sont de toute façon, dès qu'on parle de résidence, quelle qu'elle soit, la première question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on a à montrer lui, de toute façon. Donc il nous faut être assez malin pour faire. Parce que l'idée, moi je trouve que l'idée de résidence technique est particulièrement intéressante. Et ne serait-ce que pour rapprocher aussi un tas de gens qui sont dans l'idée d'un spectacle. Enfin, du spectacle vivant de façon traditionnelle et qui fuit la technologie, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle apporte, que ce soit simplement des outils qui facilitent le travail technique, que ce soit des outils de production et de création, il y a plein de gens encore dans ce métier qui refusent complètement tout ce qui est technologique, qui vont même jusqu'à dire que ça nous emmène ailleurs et qu'on fait plus du spectacle vivant. Donc, je trouve intéressant cette idée de résidence, justement.
justement, mais il va falloir être malin pour arriver à tourner le truc pour qu'il y ait quand même une petite production de quelque chose qui satisfasse le directeur et les subventions.
J'ai une idée.
Je m'appelle Sylvia Sibel, je travaille au ministère de la Culture. Et entre autres, effectivement, je sors du décret. On a terminé notre commission d'été hier, en fin de matinée. Et moi, je voulais revenir un peu sur la question. D'abord, sur la question de résidence. Enfin, je commence par la dernière que vous avez évoquée, l'histoire des résidences techniques. Ça fait vraiment tilt, ça intéresse bougrement. Et j'aimerais bien vous rencontrer pour éventuellement qu'on échange là-dessus. Et ça me paraît a priori une idée vraiment pertinente. Et comment on peut effectivement travailler à partir de là. Non, mais de toute façon, c'est vous qui avez l'idée. Notre organisme, c'est éventuellement des idées intéressantes, arriver à en faire des éléments qui rentrent dans les connaissances naturelles. Et la deuxième chose par rapport aux résidences, deux remarques sur la résidence. S'il s'agit d'une structure où vous faites des résidences apparemment insatisfaisantes, qui est soutenue par le ministère chargé de la culture pour ces résidences, je vous signale que, compte tenu du fait qu'on a rencontré qu'il y a beaucoup de problèmes à la résidence, effectivement, on labellisait la résidence non. On a depuis plusieurs mois sorti une circulaire que le ministre a signée, qui est une directive au directeur régional des affaires culturelles. Donc normalement toute résidence financée par le ministère chargé de la culture et doit garantir un minimum de choses. Donc déjà la première chose c'est de vérifier si les insatisfactions sont liées en dehors des clous, quoi, parce qu'il faut pas que ça se passe comme ça effectivement. Parce que c'est vrai que les artistes ont besoin de ces résidences, parce que la plupart des équipes artistiques sont des équipes qui ne disposent pas d'équipement, qui ne disposent pas d'outils. Et la relation avec les lieux, avec l'outil, c'est fait très souvent par le biais des résidences. Donc c'est indispensable que ces résidences, effectivement, permettent à l'artiste de développer son projet et qu'il ne soit pas immédiatement vu par les directeurs des outils, finalement, comme un moyen de rentabiliser quelque chose à voie unique. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses gagnant-gagnant, que ça puisse servir et à l'équipe artistique qui bénéficie de la résidence et au lieu dans sa politique du public, etc. Je pense que ces choses-là peuvent se faire. On a en gros défini trois catégories de résidences. Bon, j'élimine d'emblée les résidences de longue durée en vue d'implantation, etc. Sinon, donc, sur les deux autres catégories de résidences, une résidence qui est liée au fait de montrer des œuvres devant le public, donc soit des œuvres du répertoire, d'une équipe artistique, soit une création, etc. Mais, et la troisième catégorie sont des résidences de création de recherche qui ne sont pas forcément liées à un objet artistique finalisé à montrer en public. Et enfin, toujours en relation avec ça, et là, c'est ce qui est dit créable. Et vous le savez qu'il existe dans le cadre du décret, tout le monde connaît le décret, mais si ce n'est pas bien que je dis ce que c'est. Et comme je suis arrivé en stage, je ne connais pas, excusez-moi. Et donc il y a des aides à la maquette qui permettent d'avancer artistiquement sur un travail où il faut effectivement maîtriser, etc., avancer dans la relation entre l'outil ou le service d'un projet artistique, l'outil en l'occurrence technologique et complexe auquel on s'essaye tous aujourd'hui comme des novices. Et ça existe et il faut savoir faire appel à ça.
D'accord.
C'est reconduit pour combien de temps, dit Clément ?
J'ai envie de dire que pour l'instant, ce n'est pas remis en cause, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête.
D'accord.
C'est vrai qu'on a beaucoup craint que le DICREAM disparaisse parce qu'il y a eu des problèmes financiers assez importants au ministère de la Culture au début des exercices 2006 liés à des difficultés financières d'une part et une gymnastique très particulière avec la nouvelle loi des finances qui a fait qu'il y a eu une réduction massive. C'est vrai que le DICREAM cette année dispose en gros de 800 000 euros pour l'année, alors que l'année dernière on avait 1 300 000.
Et pour les années à laquelle
il y a une baisse. Je crois que c'est plafonné à 12 000 euros. Il n'y a pas de minimum, mais j'ai rarement vu en dessous de 5 000, 5 000, 7 000.
D'accord, donc c'est de 5 à 12 000.
Et la dernière, juste, alors là, plus sur le cœur de la question de la technologie, etc., je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec le mot détournement. Voilà, s'agissant de technologie par rapport à la démarche artistique, parce que, ou alors à la limite, tout est détournement dans l'art. Et je pense qu'il s'agit plutôt de déclinaison, d'utilisation, parce que nombre de ces outils, ces logiciels, quelquefois, ils n'ont pas a priori une finalité qui n'est pas artistique. Elle n'est pas plus pas artistique qu'autre chose pour un certain nombre d'entre eux. Et notamment, non mais termine après.
C'est bien, on va avoir un débat.
Notamment, je pense à des échanges que j'ai eus avec des élèves ingénieurs de l'INSA à Lyon, dans la section art études, qui travaillent donc et qui font des stages à l'Opéra de Lyon, qui est technologiquement formidablement bien outillé. Hein. Et ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils travaillent dans le domaine de recherche qui font que les applications, entre guillemets, alimentent complètement une recherche dans la mise en œuvre de nouveaux logiciels, de nouvelles technologies numériques, et qu'ils ne les vivent pas comme une espèce de détournement de l'outil technique pour l'art, mais finalement un outil technique qui peut servir, y compris dans l'art. Après, c'est l'affaire de l'artiste.
Enfin, Michel Collard,
je vais répondre à ça, c'est que, en fait, dans le théâtre, historiquement, depuis toujours, effectivement, on prend des choses qui existent à côté, on les amène au théâtre, et on s'en sert différemment. C'est ça que j'appelle le détournement.
Ah oui.
Le détournement des logiciels, c'est utilisé par Pro Tools pour la diffusion théâtrale, alors que Pro Tools n'a jamais été fait pour ça. C'est tout. Voilà. Donc actuellement, il y a, ce que je disais, il n'y a aucun logiciel, même outil, aucun logiciel qui soit, enfin, à la base, qui soit directement pour l'utilisation en théâtre, en spectacle,
en développé
en musique, si ça veut dire
quand même. Si, après, il y a des choses comme la technologie,
c'est un peu aussi dur de faire des
choses. C'est un peu le centre de notre travail.
C'est le centre du travail
et du travail.
On en a parlé avant,
excusez-moi.
C'est vraiment. Juste pour. C'est vrai que ça a été.
C'est un problème sémantique.
C'est peut-être un problème sémantique. Quoique je dis. Je peux le défendre, mais c'est pas l'objet.
Mais c'est vrai que.
Mais non, juste, en fait, en plus, je pense que vous prenez malgré tout un mauvais exemple, qui est celui d'élèves ingénieurs, qui sont des programmeurs, et qui donc sont en mesure de créer des outils à partir d'un langage de programmation, et pas du tout ce qui est la pratique la plus courante, malgré tout, dans les arts du spectacle, qui est de partir notamment de Max, qui est le logiciel le plus utilisé, qui est un logiciel qui est conçu pour la musique. Et où la question de gérer des répétitions, et c'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, sur les questions de réactivité, sur comment est-ce qu'on utilise ce type d'outil sur un plateau avec des répétitions, avec un comédien qui attend pendant 2 heures que le problème technique soit résolu. Et qu'à partir de ce moment-là, on est bien obligé de développer des stratégies qui n'ont pas été conçues à l'origine du logiciel. Voilà.
C'est vrai que c'est un. Un débat avec la terminologie des tournements. Non, c'est vrai que si on prend par exemple, je sors peut-être du cadre culturel qu'on connaît traditionnellement en Belgique ou en France, mais par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'accord, sur certaines productions à la SBS, il y a des logiciels, il y a des écrans qui sont développés spécifiquement pour les arts de la scène, par Mitsubishi, etc. Qui est dans un registre culturel très différent de celui dont on parle aujourd'hui, mais en général, c'est vrai que là, il y a par exemple un écran de 27 mètres qui a été développé par Mitsubishi pour le show de Céline Dion, et c'est une recherche qui a été faite spécifiquement par des
fois de logiciels qui ont été développés pour d'autres types d'applications et qu'on récupère un peu dans les interactions avec parfois problématiques dont on a parlé. Alors c'est vrai que la terminologie peut parfois faire un peu. Mais alors, je vois pas d'autre mot. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres petites questions. Moi, je faisais une réflexion en fait tout à il y a quelques minutes. Je me disais, est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant d'organiser une rencontre de ce type de manière semestrielle entre l'INSAT, l'STS, l'INA, l'INI, etc. Simplement une réunion pour faire le point sur les processus pédagogiques en France, en Belgique, les perspectives de chacun. Moi, je trouverais ça vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de. C'est vrai que ça s'est fait de manière un peu plus courte et rapide, mais je me dis que ça serait certainement intéressant, et peut-être aussi sur certains projets qui se développent. Par exemple, on a cité celui de l'ENSAT.
De l'ENSAT ? Non, pas du tout.
Pardon ?
De l'ENSAT ?
Non.
De la FIM. C'est lié à la FIM.
Ah, d'accord.
Et c'est, là, c'est porté, disons. Technologiquement par la plateforme Didascalie, mais c'est un mouvement de structure qui pour l'instant n'a pas d'autre nom que le groupe de travail. Ouais, c'est ça. Et donc on va structurer à partir de la rentrée là et donner un nom.
Bon, mais c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant. On parlait des modules que tu avais envisagé pour prendre le projet jumelé. C'est un chalumeau passe pas trop loin. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui pourrait peut-être nous intéresser. Il y a comme ça toute une série d'actions. Au moins, en tout cas, c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et peut-être même d'aller plus loin à certains moments. C'est un processus qui pourrait être. Je pense au niveau de
l'humain. Moi, en tant que ministère aussi, pour des partenariats avec d'autres structures, évidemment. Surtout dans ce domaine-là, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas dire.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a.
Pour échanger et participer à collaborer.
Mais dans la discussion qu'on a eue, je pense qu'il y a quand même des pistes un peu qui reviennent. L'idée de travailler en réseau ouvert, c'est quand même assez général. L'idée au niveau du processus pédagogique, d'avoir des approches assez souples, de pourquoi pas avoir un peu de fragmentation si possible. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de lignes. Que chacun expérimente et puis bon, on arrive finalement pour une conclusion. Et c'est intéressant de pouvoir échanger peut-être ça à l'intérieur de l'idée, je crois, les 6 mois, enfin je lâche comme ça, mais ça pourrait être une fois par an, je dirais, mais ça me paraît une chose intéressante. Vous pouvez réfléchir.
Est-ce qu'on peut faire passer une feuille avec
peut-être des coordonnées
les emails
dans
les mails de chacun. Comme ça, vous recevez tous ces deux filles.
Aussi, on peut peut-être. Je pense qu'on va faire un petit article qui est un peu résumé de la discussion, et puis peut-être qu'on peut essayer de créer un groupe collaboratif d'échange, et peut-être prévoir une autre rencontre, peut-être vers la fin de l'année, peut-être à Paris, faire une distance avec tout le monde.
Ça paraît intéressant en termes de créer une mailing list, tout simplement.
Oui, là,
tu penses à quelque chose d'autre?
Oui, bien sûr. On peut faire ça en direct. On peut
faire
passer un papier.
J'ai une feuille.
Papier à crayon, ça marche.
Papier à crayon.
En Bluetooth.
Ah, t'as une
grande
feuille.
Je ne devais pas être au festival de la vidéo, il se trouve que j'y suis.
Donc.
Et puis donc,
aviez à proposer l'idée de faire une présentation de ce logiciel pendant un créneau. On a parlé de ça juste avant de commencer ici. Voilà les conseils.
Ce serait un espace Alia. Oui, c'est une vision publique en face du balcon. Et la date, il faut qu'on la détermine par rapport. Il y a un créneau, ça s'appelle créneau de carte blanche, quoi, qui est donc là qui serait dédié.
C'est quand
C'est le seul. Ouais, dans les 21h30, je suis un truc comme ça.
Quelle
21h30.
Ceci étant, il s'agit
de donc, comment ça vient au courant? Tu enverras un mail à tout le monde? Qu'est-ce que tu fais?
Écoute, je vais déjà déterminer la date. Hein,
oui, non, mais c'est ça, mais qu'on va enfermer tout le monde.
Ouais, c'est clair. C'est clair, il faudra que je puisse récupérer.